C'est le 31 mai que sera lancé sur l'archipel Liar Princess and the Blind Prince. Nous l'avons appris sur Gematsu. Alors, qu'est-ce que Liar Princess and the Blind Prince ? C'est un jeu d'action-aventure en 2D vue de profil signé Nippon Ichi. Ça sortira donc le 31 mai sur PlayStation 4, Switch et PlayStation Vita. Alors le but de ce jeu est de guider un prince qui a été aveuglé et de le guider à travers une forêt afin de retrouver une sorcière, sachant que la princesse qui guide ce prince est également la personne qui, sous sa forme de loup, a griffé par accident les yeux de ce même prince. Et oui, puisque l'histoire en fait nous raconte donc, le malheur de ce prince qui, attiré par la voix enchanteresse de cette espèce de créature loup, dans la forêt, s'est retrouvé donc aveugle après une altercation qui visiblement n'est pas quand même du fait de ce loup princesse, j'ai envie de l'appeler. C'est très beau, c'est en 2D, c'est magnifique, je trouve c'est sur les tons très sombres, les tons sépia, avec un style vraiment japonais bien affirmé. Il me tarde d'en voir plus, ne serait-ce que pour le gameplay, puisque que ce soit sous sa forme de princesse ou de loup, de loup-garou, que sais-je, on n'a pas encore tous les détails sur le scénario du jeu. Il y aura donc des capacités particulières à votre personnage pour se défaire donc des ennemis mais aussi des puzzles qu'abrite cette sombre forêt. En tout cas voilà, ça approche, ce sera fin mai et je ne sais pas vous, mais moi j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Jumputy Heroes a été annoncé sur mobile et là c'est Shonen Games .com bien sûr qui nous en parle. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Et ben c'est un puzzle game RPG free to play, attention donc sur mobile hélas en tout cas de mon point de vue, qui est là pour fêter les 50 ans du Jump. On y sélectionne un héros et jusqu'à 3 personnages de soutien. On y retrouve des héros de Dragon Ball Z, de One Piece, de Yu Yu Hakusho, de Slam Dunk, etc. Bref, toutes les stars du Jump depuis une bonne cinquantaine d'années bien sûr. Une jauge d'invocation est également là, qui se remplit au fil des coups et qui permet d'être déclenché une fois rempli. Par exemple, si vous avez un personnage de Dragon Ball Z, nous dit-on, vous pourrez invoquer Shenron. Alors à savoir si free-to-play va arriver chez nous, je n'y crois pas du tout, puisque là, au niveau des licences, vu la tétrachée de personnages, dont certains qui sont totalement inconnus par chez nous, je pense pas que ça arrivera, mais en tout cas, bon, ceux qui jouent déjà en import à des jeux, à des free-to-play mobiles japonais, seront tout à fait se débrouiller pour le récupérer. Le phénomène Puzzle and Dragons fait le plein de projets en 2018 et une fois n'est pas coutume dans cette rubrique 100% Japon, c'est la première fois, je vais citer un site français qui n'est autre que GameCult, une fois encore, Puzzle and Dragons. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi Puzzle and Dragons, c'était vraiment le phénomène d'il y a quelques années au Japon, le titre de tous les records sur mobile, et puis il y a eu aussi des versions console, une version 3DS, une version même avec des personnages de Nintendo, de Mario. Et donc GameCult nous dit que subissant la concurrence d'autres RPG mobiles comme Monster Strike, Fate, Grand Order, Dragon Ball Z, Dokkan Battle, Fire Emblem, Heroes et Grand Blue Fantasy, ainsi que celle de Pokémon Go et Disney Toon Toon, le phénomène Puzzle & Dragons tire un peu la langue au moment de fêter son 6e anniversaire. Alors on nous précise qu'avec un chiffre d'affaires de 674 millions d'euros, et un bénéfice net de 162 millions d'euros aussi, pour l'année 2017, Gung Ho Online Entertainment n'est certainement pas en crise, mais impossible pour la direction d'ignorer le déclin flagrant amorcé par la compagnie depuis son bénéfice record de 452 millions d'euros en 2014. Ce même bénéfice net affiche ensuite 317 millions en 2015, 204 millions en 2016 et donc désormais 162 millions pour l'année 2017. Donc l'heure est venue de déployer ce qu'ils appellent le Puzzle and Dragons Project 2018 avec un grand plan de revitalisation qui s'étalera aussi bien dans le domaine de l'e-sport que du manga, de l'animation et des jouets. Tout un programme, je rappelle que Puzzle and Dragons est une sorte de puzzle game comme son nom l'indique, mais où les actions déclenche des attaques, il faut gérer son équipe de dragons, il y a du gacha, bref. C'est un jeu passionnant, moi je l'avais découvert à l'époque grâce à la rédaction de No Life, à l'époque où je collaborais avec No Life, et j'ai vraiment... ce jeu m'a tenu des mois et des mois durant, mais voilà, ça la demande beaucoup de temps. C'est un jeu passionnant, si vous ne le connaissez pas, je vous invite fortement à vous y frotter. Mais donc on nous dit qu'en dehors de ce Puzzle & Dragons, l'éditeur mise gros sur son prochain free-to-play destiné au système iOS et Android et qui se nomme Calcio Fantasista, et la société a également profité d'un bon lancement asiatique de Ragnarok M pour compenser en partie la baisse de son puzzle game légendaire. Le groupe possède les studios Acquire, Game Arts, Grasshopper Manufacture, attention à le studio de Suda51, et Gravity. Mais ces équipes, nous dit-on, travaillent finalement le plus souvent pour le compte d'autres éditeurs. Acquire développe par exemple Project Octopath Traveler, d'ailleurs on en parle dès la news d'après, donc ça c'est pour le compte de Square Enix bien sûr, tandis que Grasshopper Manufacture prépare Travis Strike Again No More Heroes avec la complicité de Nintendo, qui est le jeu que j'attends le plus sur Switch actuellement. Ça je pense que ceux qui me suivent un petit peu le savent. Donc voilà un petit peu, Puzzle & Dragons est toujours vivant, le déclin, si on peut vraiment parler de déclin, est tout naturel, de toute façon on ne peut pas rester un phénomène ad vitam aeternam, je vous tiendrai au courant de toute façon de la suite des événements. Project Octopath Traveler, on a des nouvelles infos via Famitsu, alors ce RPG old school de Square Enix avec sa 2D HD, tout ça prévu sur Switch. Et dans Famitsu, nous en avons appris un peu plus, puisque le producteur du jeu Masashi Takahashi de Square Enix et le réalisateur Keisuke Miyoshi d'Acquire se sont réunis la semaine dernière pour discuter de leur projet de ce RPG au look rétro mais également moderne, avec ses sprites nous renvoyant au vieux Final Fantasy, au vieux Romancing Saga, bref que du bonheur pour les amateurs. On a appris que le thème du jeu, donc le thème principal d'Octopath Traveler, est le voyage et que le monde peut être exploré avec l'un des 8 personnages présents dans le casting. Le projet a été initié par monsieur Takahashi et le producteur Tomoya Asano, qui a dirigé notamment la série Bravely Default. Acquire a été choisi comme partenaire de développement grâce à leur travail sur le projet What Did I Do to Deserve It, My Lord, mettant en scène leur prouesse du pixel art. Monsieur Miyoshi se souvient que messieurs Takahashi et Asano se sont réunis pour se poser cette question: à quoi ressemblerait un pixel art rehaussé, adapté à la technologie moderne, au lieu d'un pixel art classique? Donc ces messieurs nous expliquent qu'il a fallu du temps pour parfaire ce look HD 2D. Leurs premiers essais ne comportaient pas assez de profondeur de vue et finalement c'était pas aussi percutant qu'ils l'espéraient. Sur un autre essai, ils sont allés trop loin sur la résolution et la saturation de l'image, perdant là carrément l'attrait de ce que peut être un beau pixel art. Donc l'équilibre a été difficile, mais ils estiment être parvenus à un résultat satisfaisant. C'est pas moi qui vais les contredire. Côté personnages, donc il a été décidé d'avoir 4 personnages masculins et 4 personnages féminins, afin d'avoir des expériences différentes avec l'intégralité de ce casting. Et donc chaque héros, chaque héroïne aura son scénario bien à lui. Tous les personnages, tous ces personnages-là ont des classes différentes, nous dit-on, et plus d'infos seront bientôt dévoilées à ce sujet. Mais Monsieur Takahashi précise quand même que les classes de tous ces personnages, donc leurs fonctions, se rapprochent d'un certain aspect réaliste, est basé sur ce qu'on pouvait trouver dans l'Europe médiévale. Et les différentes actions des personnages ont été influencées et créées par rapport justement à ces classes. Pour plus, entre guillemets, de réalisme. Alors dans la démo sur Switch, on a 2 personnages, Olberic et Primrose, et donc ils ont été choisis pour cette démo, nous dit-on, car leurs histoires débutent dans le même endroit, à savoir ce fameux village. Je ne vais pas vous en dire plus si vous n'avez pas essayé le jeu. Les développeurs voulaient que les joueurs puissent découvrir le deuxième personnage après avoir terminé la démo une première fois. C'était bien pratique vu que ces 2 personnages trouvent leurs racines dans ce village-là. Et donc pour conclure, que dire de plus beau si ce n'est que Project Octopath Traveler, dont j'attends beaucoup, j'espère ne pas être déçu, sortira simultanément dans le monde entier en 2018 sur Nintendo Switch, sans plus, hélas, de précision. Vivement qu'on ait une date à se mettre sous la quenotte. Moi, je ne sais pas vous, mais ayant une adoration sans borne pour les vieux Final Fantasy, les Romancing Saga, mon dieu, Romancing Saga 3, qu'est-ce que j'aimerais y rejouer dans une version Switch, ce serait merveilleux. J'attends ce jeu avec grande, grande impatience. Les designers de Super Mario Odyssey ont rajouté des pièces supplémentaires dans le jeu par respect pour les testeurs, et c'est Kotaku qui nous apprend ça. Et oui, parce que si vous avez joué, ou si vous jouez encore, bien sûr, à Super Mario Odyssey, vous vous êtes très certainement rendu compte qu'on peut trouver des pièces dans des endroits complètement improbables, très difficiles d'accès, où très souvent on se dit « Non, c'est pas possible, je pourrais pas monter, je ne sais pas, sur ce plafond, escalader ces tours, etc. » Et finalement, avec dextérité, ou parfois coup de bol, hein, on y arrive. Ça a été mon cas, on peut trouver des tas de pièces dans des endroits vraiment complètement fous. On a l'impression d'aller au-delà des zones de jeu, et il y a toujours des choses à se mettre sous la dent dans Mario Odyssey. Eh bien, sachez que toutes ces pièces qu'on trouve à des endroits complètement foufous viennent des séances de test, puisque lors hein, donc de ces phases de test, hein, nous explique Monsieur Koizumi, hein, donc le producteur de Super Mario Odyssey. On a parlé hein, de ce grand monsieur hier d'ailleurs à travers le making-of de Super Mario Sunshine sur jeuxvideo.com. Bref, donc Monsieur Koizumi a expliqué récemment le processus hein, de conception derrière toutes ces pièces cachées, puisque au cours du développement, l'équipe donc de débogage, hein, l'équipe de test, arrivait à atteindre des zones complètement inattendues de la part de l'équipe de développement. Et donc, pour les récompenser, pour, et je cite, hein, rendre hommage à cette équipe de test, l'équipe du jeu a placé des pièces un petit peu partout pour que ce soit beaucoup plus gratifiant pour eux et pour les remercier de leur travail. Et surtout, alors là, on part un petit peu sur autre chose, mais Monsieur Koizumi nous révèle enfin que Toad, hein, la tête de champignon de Toad, donc cette grosse boule champignonesque hein, qu'il a sur la tête, dirais-je, n'est pas un chapeau, mais est vraiment sa tête. Donc Toad ne porte pas un chapeau, c'est officiel. Cette forme de champignon, c'est son physique, c'est sa tête, il faut l'accepter comme ça, avec sa différence. Ce cher Toad, il le mérite, vraiment, il le mérite totalement. D'ailleurs, des indices, hein, on en a à tire les rigots, si vous regardez tous les jeux mettant en scène Toad, que ce soit les Mario ou autres spin-off, quand il doit porter un petit chapeau, c'est toujours par-dessus hein, cette testasse champignonesque. Donc on avait un petit peu les infos, mais cela est confirmé officiellement par Nintendo. Et je pense que vous dormirez mieux maintenant que cette info a été délivrée, intégrée, ingérée, digérée. Chronicle of Teddy Harmony of Exidus, c'est le nom Wii U. Et bon, on va parler de Wii U. De Fighting Teddy 2, alors ceux qui me suivent depuis longtemps savent que c'est un jeu qui a été réalisé par mon frère et son comparse de storyboard, un jeu où j'ai eu la chance de participer à mon petit niveau, divers petits niveaux, voilà, sans en dire plus. Et donc Chronicle of Teddy sort sur Wii U au Japon. Alors, le jeu est disponible sur PC, sur PlayStation 4, sur Wii U chez nous. Sur Xbox, j'ai un doute, mais j'imagine que oui. Et il sort enfin au Japon sur Wii U et est donc l'un des derniers titres. Hein, et c'est JapaneseNintendo.com, vous savez, ce site que j'affectionne particulièrement sur l'actu japonaise liée aux machines Nintendo. Le site nous apprend que donc Chronicles of Teddy est l'un des derniers titres pour la console Wii U à sortir au Japon en démat. C'est Arc System Works quand même, hein, le studio hein, derrière Dragon Ball Fighters hein, qui va donc publier le jeu au Japon. Il n'y a pas encore de date de sortie, on devrait apprendre hein, la date de sortie là dans les jours qui viennent. Il y a, et ça vous le verrez hein, en cliquant sur le lien en description de cet épisode, un trailer japonais qui pète la classe, voilà. Et ça fait toujours plaisir de voir ce jeu qui moi aussi m'a occupé une grande grande partie de ma vie il y a quelques années de cela, le voir vraiment un teaser japonais comme ça, et ben j'ai envie de vous dire ça claque, voilà, quand on aime le jeu vidéo japonais ça claque toujours. Donc c'est l'un des derniers jeux, voilà, de cette machine que j'affectionne, qui n'a pas marché du tout, mais que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup la Wii U, et donc bah, tout ça fait que, et ben ça fait plaisir de voir cette petite vidéo. N'hésitez pas à aller jeter un œil et n'hésitez pas à essayer le jeu si vous ne l'avez pas encore fait. Je rappelle que ce jeu en pixel art vu de profil, hein, se revendique de Wonder Boy, se revendique de Zelda 2, se revendique de Shadow of the Beast, bref, n'hésitez pas à y jeter un petit œil si vous avez l'occasion. Et c'est ainsi que se termine cette rubrique 100% Japon, et on se dirige, hein, comme vous le savez, vers la fin de l'émission.